Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. On est dans la troisième paracha dans le deuxième livre de la Torah et c'est la dernière partie des frappes de ce qu'on appelle les diplets. Et on nous raconte la sortie de l'Égypte, même si que la paracha de l'après, il y a encore quelques détails. Mais donc on est dans cette notion de la sortie de l'Égypte, mais avant les trois derniers plaies. Donc on sait qu'il y a 10 plaies. Les 10 plaies, ils ont, comme on a vu déjà, ils ont plusieurs buts. Ça veut dire lorsque Hachem, Dieu, il a frappé les Égyptiens avant de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Alors il a frappé les Égyptiens avec 10 plaies. Et il y a des commentaires qui explique, il manquait clairement dans la Torah, mais il faut le commenter quand même. Quel était le but de ces plaies? 10 plaies, pourquoi 10 plaies? Pourquoi pas moi? Dieu est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire sortir sans toutes ces difficultés. Bien sûr qu'il y a des explications, des différentes explications, mais d'une façon générale, comme on a vu, il me semble, la semaine dernière, qu'il y a trois buts. D'une part, une notion de punition, quelqu'un qui a fait du mal, il doit payer. Et là, il y a, dans les 10 plaies, on trouve des différentes choses par rapport à ce que les Égyptiens ils ont fait. Et donc, les plaies correspondent à une sorte de punition. Et ensuite, il y a une autre notion, c'est que ce n'est pas seulement le but de casser, de détruire les Égyptiens. Le but, c'est finalement construire un autre Égypte. Et à ce moment-là, il faut qu'ils comprennent des choses. Et donc, par les plaies, on apprend des choses, on comprend des choses, on avance doucement petit à petit. Et donc, c'est pour les Égyptiens, ce que nous présente le monde. Le monde doit changer, il doit avancer. Donc, alors, par les plaies, que dans ces plaies, il y avait beaucoup de miracles. En même temps, ces miracles, ce n'étaient pas des miracles qu'ils ont détachés de la réalité. Il y avait une idée, il y avait des idées, il y avait des idées qui sont liées avec la nature, mais hors nature, à ce moment-là, ça nous donne, c'est donné aux Égyptiens, mais ceux qui sont autour d'eux, de réfléchir autrement, de voir le monde autrement. Comme là aussi, c'est marqué, et ils ont marqué les détails, comment chaque plaie, on a avancé dans la compréhension, donc ça provoque une autre vision et donc un autre comportement du monde d'une façon plutôt positive. Là, on ne va pas développer aujourd'hui, mais c'est plutôt lié avec ce qu'on a dit la semaine dernière un petit peu. Et la troisième chose, c'est aussi pour le peuple d'Israël. Et c'est à peu près la même chose. Ça veut dire, on sait, grâce au miracle, on sait, on voit la présence divine de différentes manières. Soit d'une façon, on voit que Dieu, il dirige le monde, il fait ce qu'il veut avec ce monde, d'une façon miraculeuse ou même d'une façon naturelle, comme on voit, comme on a dit, les différents plaies, que chaque fois, il y a une autre idée autour de cette idée. Maintenant, on a vu plusieurs choses. On a vu que le but de cette histoire, ce n'est pas seulement pour raconter ce qui s'est passé à l'époque, c'est quelque chose qui nous sert à, quelque part, une idée, une vision pour notre vie personnelle. Chacun, il a ses événements qui sont passés dans la Torah, mais qui sont passés dans d'autres endroits ou bien dans d'autres périodes, et ça se passe chez nous dans d'autres manières. Ça veut dire qu'il faut la chassidoute surtout, mais la Torah en général, mais la chassidoute, elle développe beaucoup cette idée qu'on est dans un monde qui est considéré comme l'Égypte et il faut savoir sortir de l'Égypte. Et d'une façon générale aussi, tous les jours, on sort de l'Égypte, de ces difficultés qui correspondent à l'idée de l'Égypte. L'Égypte, ça Ça vient des mots en hébreu Mitzrayim. Mitzrayim, ça veut dire étroitesse. Parce que tout exil, c'est une notion d'étroitesse, soit matérielle, soit spirituelle, soit psychologique. Et sortir de l'Égypte, c'est savoir sortir de ces difficultés, aller plus loin. Et parfois, il y a beaucoup d'étapes. Hier, mon Égypte était ça, et demain, mon Égypte va être différent. Donc ça, c'est une vision très générale, comment on apporte ces idées de l'époque vers l'idée d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les lit, parce qu'on a besoin de servir par les mêmes méthodes, même si qu'il faut savoir moderniser les méthodes, mais quelque part, l'idée reste la même. Et donc, on sort de l'Égypte. Alors, il y a beaucoup d'idées autour de ça, mais aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a de spécial dans notre paracha. Donc, dans les plaies de notre paracha, c'est que, comme on a dit, c'est les dernières trois plaies. Il y avait déjà sept plaies dans la paracha de la semaine dernière, et il y a les trois plaies qui sont là dans notre paracha. Donc, notre paracha commence par le mot « Bo el Paro ». Dieu dit à Moshe « Viens chez Pharaon ». Si on voit donc dans les différents plaies que chaque fois Dieu il a dit à Moshe d'une autre manière, il a dit faire d'autres choses, comment annoncer la plaie d'une autre manière. D'une façon générale, on voit qu'il y a une fois qu'il a dit va vers Paro, il se trouve dehors. Une fois il a marqué viens chez Paro, il se trouve chez lui. En fait, pas tout à fait, je traduis comme ça, mais c'est à peu près ça. Et une autre fois, il a marqué « frappe paro » et il y a « par trois ». Ça coupe par trois. Et il y a « va, viens et frappe ». Donc, c'est trois. Chaque fois, il y avait la même chose, mais chaque fois, la Torah nous raconte d'une autre manière parce que le message est différent. Donc, il y a « va, viens et frappe ». Va, viens et frappe. Et encore une fois, la troisième fois, va, viens et frappe. Donc, quand la Torah nous dit viens, ça veut dire qu'elle devrait aller chez lui à la maison et à ce moment-là lui annoncer, lui dire attention, si tu ne vois pas, il y aura telle et telle chose. Et quand il a marqué va, ça veut dire va dehors. Et là où il se trouve devant le Nil, comme il a marqué pourquoi il était devant le Nil le matin. Et donc, on trouve de différentes manières. Dans notre paracha, ce n'est pas la première fois, et pourtant, c'est le début de la paracha. Ça veut dire que Dieu il dit à Moshe, viens chez Pharaon. Viens chez Pharaon, comme on le dit, viens chez lui. Mais pourquoi il a marqué viens, on devrait dire, il devrait dire va. Comme la même chose que quand, lorsqu'il se trouve dehors, alors Dieu il lui dit va. Et donc, lorsqu'il se trouve chez lui, Dieu il lui dit va. Pourquoi viens? Parce que de toute façon, il demande à Moshe d'aller. Est-ce que Dieu l'accompagne? S'il l'accompagne, comme chaque personne, Dieu il est avec nous, alors à ce moment-là, il faut toujours dire « viens ». Et s'il ne l'accompagne pas, alors à ce moment-là, il faut toujours dire s'il l'accompagne, il faut toujours dire « viens ». Et s'il ne l'accompagne pas, alors il faut dire « va ». Alors l'idée générale, c'est vrai que Dieu nous accompagne bien sûr, mais d'une autre part, Dieu il veut qu'on fasse des efforts. Ça veut dire qu'on t'accompagne, mais avance-toi avec tes propres moyens. Donc alors, Dieu il dit à Moshe, va chez Pharaon, et dis-lui, fais ceci, fais cela, réfléchis, fais. Donc Moshe il réagit, mais de la même manière, quelque part il va tout seul, il va jamais tout seul, mais quelque part, ça c'est l'idée de la responsabilité de chaque personne. Dieu il dit va, toi tu vas faire, parce que si tu vas pas faire, moi je vais pas faire pour toi, parce que c'est ça le but de notre monde, que chacun fasse ses efforts, on fait pas pour lui. Mais quand même, il y a parfois où le moment est tellement difficile qu'il faut quand même sentir, il faut même ce que l'homme il fait sans devoir, mais parfois il doit sentir que Dieu il est avec lui plus que jamais. Comme un enfant qui marche avec ses pieds, mais on lui donne la main quand même, parce que c'est difficile. Mais normalement, le but c'est que l'homme il se débrouille seul, en fait, pas vraiment seul, mais il fasse ce qu'il doit faire, mais parfois... On fait un effort, donc dans notre cas, c'est Dieu qui le fait quelque part. Il fait plus de ce qu'il a l'habitude de faire. Il accompagne Moshe à tel point que même ce que Moshe il fait, ce qu'il doit faire, et Dieu il fait sentir que il est avec lui plus que jamais. Et c'est vrai aussi pour nous, d'une façon générale, c'est notre comportement comme ça, que Dieu, il attend que nous, on fasse l'effort, mais parfois, on sent qu'on est perdu, quand la situation est dramatique, on sent que Dieu, il est présent avec nous. Alors, pourquoi ici donc? On a dit comme ça, c'est marqué déjà dans la Torah, mais ici, la Torah, elle commence par cette idée, vient chez Pharaon, et à partir de là, le rabbi de Lubavitch s'est basé sur les Zohar, il apprend de là que ici, il y avait quelque chose de difficile. Donc, même si on est après les sept plaies, on voit que chaque fois, Pharaon, il avance un pas, mais il recule, mais il avance encore, mais il recule. Chaque fois, il dit non, je suis d'accord pour ça, mais pas pour ça. Ensuite, pour ça, pas pour ça. Il avance, mais quand même, il recule, mais on voit qu'il n'est pas, c'est pas le Pharaon de début, c'est un Pharaon qui finalement, il se brise, il se casse, il n'a pas la force qu'il a avant. Donc, alors, logiquement, plus que le temps passe, Moshe devrait sentir plus léger, plus, ça veut dire, moins peureux, sentir libre, voilà, on voit qu'avec le temps, Dieu, il a annoncé que ça va être difficile, mais avec le temps, il y a pas mal de choses qu'on a arrivé à faire. Il y a les peuples juifs qui ne sont plus dans la souffrance depuis la troisième plaie, ça veut dire cette souffrance énorme, elle n'est plus là, même si ils travaillent encore, donc on voit que les choses s'arrangent, on voit que Pharaon, finalement, il perd de ses forces, et pourtant, ici, Moshe, il est perdu à tel point que la Torah, elle dit, viens, viens, ça veut dire que viens avec moi. Et puisque la paracha, elle commence par ça, ça veut dire que c'est ça, quelque part, le moteur de cette paracha, viens chez Pharaon. Et pourtant, dans cette paracha, il y a c'est la fin de Pharaon, en fait, la fin de Pharaon en tant que dirigeant de Mitzrayim, en tant que lui qui fait souffrir, qui fait, que le maître, c'est lui qui fait. Qui a créé le système des esclavages en Égypte. Dans notre paracha, ça y est, il est obligé de laisser. Et pourtant, cette paracha, elle est marquée « Viens chez Pharaon » qui est dans le début de la paracha. Donc, le nom de la paracha, c'est « Viens chez Pharaon », ça veut dire comme si Pharaon, il était à sa force de plus fort, et à tel point que Dieu il dit à Moshe, viens avec moi. Effectivement, comme ça, il est marqué dans les Zohar, que quand il est marqué, viens chez Pharaon, c'est parce que Moshe, il a eu peur. Donc, après, donc encore une fois, après plusieurs plaies, d'un coup, Moshe, il a peur, et Dieu lui dit, viens chez Pharaon. Alors, il faut expliquer ça, mais et ça aussi, on explique de différentes manières. C'est intéressant que dans la Chassidut, dans la Torah du Rabbi, le Rabbi, il a expliqué les choses d'une façon différente d'une année à l'autre. Très souvent, c'était lié avec l'histoire géopolitique de cette période. Une année avant, donc, c'était l'histoire de la guerre de Golfe, la première. Et le sujet que le rabbi a parlé était vraiment lié avec ça. Et une année après, il a parlé d'autres choses. Et c'est intéressant parce que c'est le même Torah, mais le message parfois change selon la période ou bien le contraire. C'est la période qui est influencée par ce qu'il a marqué dans la Torah. Alors on va revenir. Selon les Zohar, Pharaon, le nom Pharaon, ça vient des mots paroua en hébreu. Paroua, c'est quelqu'un qu'il est un peu mal, il est pas dans l'ordre, il est dérangé. Dérangé, ça va pas dire, on parle d'un homme, de quelqu'un qui est dérangé, c'est quelqu'un qui n'est pas logique, c'est vrai, mais pas dérangé, ça veut dire qu'il a pas d'ordre. L'ordre que le monde considère, ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à ne pas faire, il y a des gens qui sont hors de cet ordre, à tel point qu'on peut l'appeler, comme on l'appelait en hébreu, Meshuga, quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui n'est pas dans l'ordre normal. Si ne pas nommer le nom, mais parfois il y a des dirigeants qui font des choses que le monde le considère comme des fous, mais pour qui il se prend, qu'il fait des choses ils font des choses qui ne sont pas dans les normes. Alors comment faire devant eux? Ce qui est intéressant, donc Paran ici, donc dans la paracha, pardon, Paran ici, selon la Kabbale, il vient des mots Pharaon parce que c'est une puissance. D'où vient cette puissance? C'est que Dieu lui a donné la puissance. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas des choses dans le monde qui peut faire même les choses qu'il opposait à la divinité, il opposait à l'idée de Dieu, c'est parce que Dieu il a donné sa force. Pourquoi Dieu il a donné la force? Alors là, on rentre dans un sujet plus large. Dieu il a créé le bien et le mal. Il fait vivre le bien et le mal. Il donne la force au bien et au mal. Pourquoi? C'est une autre question. Pourquoi Dieu il a créé comme ça? Mais ça, c'est clair que Dieu il a créé. Il donne la puissance au bien et bien et au mal. Alors, ce qui est intéressant, donc, alors, tout d'abord, peut-être je veux ouvrir une petite parenthèse que dans un mois, ça va être la fête de Pourim. Pourim représente, comme chaque fête, représente une autre idée différente. Et on dit que Achashverosh, il a fait le décret avec Aman. Donc il y avait Aman qui a fait le décret de... Le décret d'exterminer le peuple juif d'une façon très violente et partout dans le royaume, ça veut dire partout dans le monde, et à un jour. Donc c'est un projet fou. Finalement, les événements ils ont fait, comme il est marqué dans la Megillah, grâce à Mordechai, grâce à Esther, mais bien sûr grâce à Dieu, parce que la main de Dieu passe par l'acte humain, mais finalement, les choses ont changé. Aman, il était donc détruit. Par contre, Achashverosh, d'un coup, il a nommé Mordechai comme vice-premier ministre, vice-roi, pardon, et la situation a changé. Donc, d'un coup, les peuples juifs, ils ont été sauvés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Aman, qui est l'architecte, si on peut dire, de ce décret d'exterminer tout le peuple juif, il devient toujours le symbole d'ennemi. Et Achashverosh, qui lui aussi, il n'était pas pour rien, c'est lui qui a donné l'accord. Lui, par contre, il devient gentil d'un coup. Comment on oublie tout ce qu'il voulait faire? Il devient gentil. Alors, il y a une explication là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui sont des moteurs. Il y a des moteurs négatifs. On ne peut rien faire, c'est très négatif. Il y a des moteurs qui, parfois, ils peuvent se trouver dans le côté, d'un côté ou de l'autre côté. C'est un moteur. Et là, il représente une idée de puissance. Si vous le mettez comme si vous allez mettre une puissance à une voiture avec un moteur très très puissant si vous allez le mettre sur l'autoroute qu'il va vers le nord, il va aller vers le nord. Si vous changez vers le sud, il va vers le sud. Mais c'est un moteur. Il va toujours faire beaucoup. Il y a des hommes politiques aussi qu'on voit qu'ils changent. C'est des moteurs. Mais ils n'ont pas quelque chose de très clair dans leurs idées. Leurs idées d'être un moteur très puissant. Très, très puissant. Mais ils n'ont pas un projet. Le projet, c'est être un moteur puissant. Donc, Achashverosh, on trouve ici comme quelqu'un qui est... C'est un moteur. C'est quelqu'un qui a une force à nos yeux, et en vérité, sans limite. Et seulement qu'il faut le mettre dans le bon côté. Et à ce moment-là, on va l'utiliser, on va profiter de cette idée. Mais il est fou. Et d'ailleurs, le monde a besoin de fous. On n'est pas rentré dans de parler de politique, des choses. Il y a des choses très intéressantes de ce qui se passe dans le monde. Mais il y a des gens qui sont mauvais de nature. Alors là, on n'a pas le choix. On les détruit tant qu'on ne peut pas faire autrement. Mais il y a... Mais la majorité du monde, c'est un monde un petit peu fou. Et il y a des dirigeants qui sont un peu fous. Et ils sont puissants, ils sont très puissants. Ils dépassent la logique. Et à ce moment-là, juste ce qu'il faut faire, il faut savoir le mettre sur les bons rails, si on peut dire, sur les bons côtés. Que le monde profite d'eux, qu'il ne soit pas destructif. Et à ce moment-là, c'est bien. Et ça, c'est une vision très générale pour beaucoup de choses. Il y a des enfants, des adultes, qu'ils turbulent, tourbillon, turbulent, ils dérangent. Pourquoi? Parce qu'ils sont super énergie. On ne sait pas quoi faire avec eux. Quand ils se mettent avec les autres, ils dérangent. Alors, il y a deux manières. Il y a une manière. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui est mauvais par nature. C'est juste qu'il a trop d'énergie, donc il ne sait pas comment se prononcer. Et donc, à ce moment-là, il dérange la classe. Ou bien les adultes qui dérangent les autres. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir profiter de cet individu et utiliser sa force pour quelque chose de positif. Alors, comment on le fait? Ce n'est pas simple, mais ça doit être une vision. Que pas toutes les personnes qui sont. Il faut pas regarder de quelqu'un qu'il est. Comme on a parlé tout à l'heure des parents. Pharaon représente une idée de quelqu'un qui est paroi, ça veut dire qu'il n'est pas arrangé, il est hors, quelque part, norme. Alors, d'être en norme, ça dérange les gens. Il y a les normes, il y a avant, il y a après, il y a maintenant, il faut rentrer dans les normes. Tout ce qui ne rentre pas dans les normes, ça dérange. Mais si le fait qu'il n'est pas dans les normes, c'est parce qu'il a, comme on s'est traduit encore dans notre monde à nous, il y a des gens qui ont super énergie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est utiliser cette énergie pour quelque chose de positif. À ce moment-là, tout le monde profite. Il y a des gens qui sont mauvais. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de solution, mais la majorité des gens ne sont pas cette nature d'être mauvais, seulement qu'ils ont des natures qu'ils ne savent pas toujours diriger. Là, on va revenir à notre sujet. Donc, Hachem, il montre à Moshe comment ça fonctionne. Il voit un pharaon, une puissance qui dépasse Moshe lui-même. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à expliquer ici. Moshe aussi, c'est une puissance. C'est pour ça qu'Hachem l'a choisi. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça c'est une question que tout le monde pose, c'est que, on a vu dans la paracha, dans le parachute il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, oui, et dans la paracha Shemot, donc la première paracha de ce livre, de ce deuxième livre, que Hachem l'a choisi Moshe comme libérateur. Et Moshe ne comprend pas, il pose beaucoup de questions. Il interroge pendant 1 semaine, comme il est marqué dans la Torah, mais pas d'une façon très claire. Mais Rashi commente la Torah, en tout cas, que ça a duré 1 semaine. Il est marqué qu'il a parlé quelques jours dans la Torah, mais ça a duré très longtemps. Moshe, il n'est pas prêt. Et parmi les arguments de Moshe était que je bégaye. Donc, ce n'est pas logique que si Hachem choisit quelqu'un qu'il va pouvoir faire quelque chose, qu'il va expliquer quelque chose, qu'il va choisir quelqu'un qui bégaye. Ça veut dire qu'il choisit quelqu'un mieux de lui. Donc, Moshe ne comprend pas. Et Hachem, il choisit justement lui. Alors, dans le Chassidut, on explique que Moshe représente pourquoi on bégaye. Parmi l'idée, c'est que parfois il y a quelque part, il y a certainement d'autres explications, mais parmi les explications, qu'il y a un écart entre la pensée et la parole. Dans notre cas, Moshe, il était un homme très intellectuel d'une part et très spirituel d'une autre part, c'est lié d'ailleurs, et il n'arrivait pas à s'exprimer. C'est vrai qu'il y a des raisons pourquoi, comment il est devenu, il a commencé à bégayer, mais il y a aussi ce qu'il représente au niveau spirituel. Donc, Moshe, il ne comprend pas comment lui, qui représente une notion, ce qu'on a dit tout à l'heure, dérangé, il est hors ce système. D'ailleurs, on l'appelle Moshe parce qu'il sort de l'eau. Quelque part, si on va dire sur quelqu'un qui vient d'une autre planète. Donc, il n'est pas d'ici, qu'Hachem choisit quelqu'un d'ici. Et Hachem lui répond que justement c'est ça que je cherche. Ça veut dire, pour changer le monde, il faut avoir quelqu'un hors commun, que lui, il va justement rentrer, pouvoir rentrer cette énergie hors commun, qu'elle va rentrer dans le commun. Parce que le monde, c'est un monde commun, un monde ordonné. Il y a des règles dans ce monde. Normalement, quelqu'un qui est hors commun, il ne peut pas cohabiter avec le monde en commun. Regardez un petit peu ce qui se passe dans la politique autour. Il y a un dirigeant hors commun qui, que le monde, il n'arrive pas, il sait pas comment, comment l'aborder. On peut pour beaucoup parler, mais c'est un exemple intéressant de ce qui se passe maintenant. C'est bien quelqu'un d'hors commun, mais parfois on sait très bien que le monde, avec ses règles logiques, il n'avance pas. Alors toujours on essaye la petite bête, on essaye d'arranger comme ci et comme ça, mais il y a à côté de ça des grands problèmes, des gens hors commun qui font des problèmes, et à côté de ça, on a besoin peut-être des gens, des dirigeants hors commun, pas normal, on peut même les appeler fous. D'ailleurs, les prophètes, on trouve dans la Bible qu'ils s'appellent les fous parce qu'ils sont des gens hors commun. Alors, les gens hors commun, c'est bien. Là, on appelait tout à l'heure quelqu'un qui a super, une grande énergie. Si on ne sait pas comment l'utiliser, ça peut être destructif. Si on sait comment l'utiliser, alors même si c'est hors commun, mais c'est quelque chose de très très positif. Alors, l'heure avance, il faut qu'on conclue cette idée. Alors, c'est un petit peu cette idée de notre parasha, que pour réussir, il faut. Donc, Moshe, il représente un homme hors commun. Pharaon, de l'autre côté, il représente une autre personne hors commun. Pharaon, il utilise sa force hors commun pour détruire, dans notre cas. Moshe, il est un homme hors commun, mais il ne sait pas comment il arrive ses énergies dans ce monde. Mais le but, justement, qu'il faut amener les forces hors commun dans un monde commun. Et ça, c'est un petit peu une idée très large, que peut-être on va parler de ça une autre fois. Rester dans le commun, ça ne suffit pas. Et ça, c'est une des idées que la Chassidoute développe, qu'il faut savoir amener les idées hors commun dans le monde en commun. Il faut amener des idées très très fortes dans le monde très limité. Ok, on a dit quelque chose sans l'expliquer, mais ça c'est l'idée. C'est pour ça que pour changer Pharaon, comme on a dit tout à l'heure, que Pharaon il n'est pas forcément mauvais, dans notre cas si, mais dans ce que représente Pharaon comme quelqu'un qui a une super énergie, et donc à ce moment-là il utilise sa part pour quelque chose de négatif. Alors, la Torah nous demande, nous dit que super énergie, au contraire, c'est quelque chose de très positif, mais il faut savoir comment le faire. Et c'est par Moshe. Mais Moshe, il voit la force de Pharaon, qu'ailleurs il a marqué que quelque part était supérieure à celle de Moshe. C'est pas le moment d'expliquer ça, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il a peur, parce qu'il voit ce qui se passe. Il voit la force de Pharaon. Alors, on peut rajouter encore un petit détail que, on a l'habitude de dire aux gens que même quand j'ai un royaume, alors ça c'est lié avec ce qui se passe maintenant, qu'on essaye de détruire ce royaume parce qu'elle est mauvaise pour ses habitants, elle est mauvaise, pas le royaume, ce qu'il dirige. Parfois on a peur qu'il y aura une mauvaise résultat, on peut le détruire, en tout cas ses dirigeants. Mais on a peur que si on va diriger, ils vont faire créer des catastrophes. Comme ce qu'on appelle parfois un animal blessé, qu'elle fait plus mal que de bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Mais ça, c'est d'une part. Mais d'une autre part, le but du judaïsme, c'est changer le monde. Et que le monde, qu'il est parfois mauvais, mais pas parce qu'il est mauvais par le fond, c'est parce qu'il ne sait pas comment utiliser ses énergies pour le bien. C'est pour ça que les enfants qui dérangent la classe parfois, c'est parce qu'ils ont super énergie. Et si leurs dirigeants ils sont bien, ils savent, c'est pas toujours facile, tout le monde le sait, mais dans l'éducation moderne, on essaie de développer cette idée qu'il faut savoir comment utiliser les super énergies pour quelque chose de très très positif. On a beaucoup d'exemples pour aujourd'hui. Donc, alors, c'est ça un petit peu l'idée de notre paracha. Et ça, c'est la fin. Après qu'il a frappé Pharaon de différentes choses, comme on a dit tout à l'heure, que chaque plaie avait son message, dans plusieurs domaines. Là, on rentre à une autre idée qui frappe la force de Pharaon, que même s'il était déjà blessé, mais il est devenu beaucoup plus fort. Et là, Moshe, il comprend d'où vient la force de Pharaon. Il voit une force extraordinaire, donc il a peur. C'est pour ça que Dieu il doit l'accompagner. Mais l'idée, encore une fois, pour être libéré, dans notre cas, c'est la sortie de l'Égypte. Dans notre cas, c'est pas. Dans notre cas, dans d'autres cas, c'est les différents problèmes du monde. Alors parfois, on peut ignorer les problèmes, comme on dit, balayer sous le tapis. Mais parfois, il faut rentrer à l'intérieur des problèmes. À ce moment-là, c'est dangereux, mais rentrer à l'intérieur des problèmes pour le changer. Dans notre cas, Pharaon représente, comme on a dit, une super énergie. Dans notre cas, puisqu'il ne sait pas comment l'utiliser, il l'utilise d'une façon négative. Moshe, qui aussi représente la notion de super énergie, il doit rentrer chez Pharaon et le changer. Et ça, c'était une préparation au don de la Torah, parce que l'idée de la Torah, c'est la même chose, d'une façon générale, de savoir utiliser les super énergies dans notre monde et donc créer un monde positif. Alors, on a tourné autour des pots, mais on n'a pas parlé, on n'a pas expliqué exactement qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, ça suffit déjà pour savoir que ça, c'est la vision de la Torah, que la majorité des mal qu'on a dans le monde, donc le mouvement négatif, c'est pas forcément... Il y a des mauvais par excellence, mais la majorité des négatifs, c'est quelque part des forces qui ne sont pas dans leur place, et parfois c'est super énergie qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Et la façon, c'est comment on peut changer, c'est par le fait qu'on rentre dans ce système et on les fait rentrer dans le système. Donc on utilise ce système pour quelque chose de positif. Et c'est pour ça aussi que, selon l'Arabie, on est aujourd'hui à la veille de Mashiach, où d'une part on a l'impression que parfois on arrive à une situation qu'on se demande vers où on y va. La situation est tellement compliquée aujourd'hui, mais selon cette vision, parfois avant les moments positifs, on doit traverser des moments difficiles, parce que le but, c'est pas être tranquille. On a besoin de force et de super énergie, mais parfois, comme on a dit, les super énergies mal dirigées, c'est destructif. Mais super énergie bien utilisée, c'est le contraire, c'est la parfois on appelle l'énergie propre, l'énergie verte. En fait, il y a différentes manières, mais ça veut dire que si on utilise l'énergie d'une façon positive, alors le contraire, c'est bon, c'est bien pour le monde. Mais pour ça, il faut parfois traverser. C'est ça que se passe maintenant, le monde qui passe un schéma négatif, mais selon la vision du Rabbi, c'est pour nous amener vers un monde positif, finalement, que la super-énergie va mettre ses forces dans des choses positives. Et c'est pour ça que chacun doit faire ses efforts à ne pas détruire, mais le contraire, à construire, à refaire de notre monde un monde positif. Et c'est vrai aussi pour chacun dans sa vie personnelle. Quand on a des difficultés, il faut chercher plutôt, au lieu de détruire, au lieu de, bien sûr, de rentrer dans la dépression par la situation difficile, savoir que Dieu nous a donné une possibilité d'utiliser des forces supérieures pour changer comme un sportif, quand on lui donne des devoirs supérieurs, supplémentaires, alors il ne les prend pas comme un échec, mais il le prend comme une situation de monter encore plus haut. Ça, c'est le monde à nous, ça, c'est notre monde aujourd'hui, qu'il passe à une phase très difficile, mais c'est pour nous amener vers un monde meilleur. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Fête et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.